Bonjour à tous et bonjour Sarah.
Bonjour Stéphanie, bonjour et bienvenue à notre professionnel Philippe Détra, horticulteur à Neuchâtel.
Bonjour.
La grisaille du mois de novembre ne doit pas vous mettre le moral plus bas que terre. Les jardinières sont là jusqu'à 8h pour répondre à toutes vos questions de jardinage. Et vous verrez qu'avoir un beau jardin, ça rend de bonne humeur.
On sera heureux de recevoir vos appels au 0901 70 20 20 pour 36 centimes la minute. Les jardinières, c'est votre émission où vous pouvez vous exprimer en direct. Alors allez-y, ne vous gênez pas. Philippe Détra est à votre disposition jusqu'à 8h. Vos questions, vous pouvez aussi nous les envoyer par SMS au 939 en écrivant le mot « jardin » en début de message et en laissant un espace avant votre question. Si vous n'avez pas de téléphone, il vous suffit d'une connexion Internet pour remplir le formulaire sous l'onglet « Émission, questions aux jardinières » et donnez-nous un maximum de détails dans toutes vos questions par écrit pour que Philippe puisse répondre au mieux. Et n'hésitez pas à nous appeler pour ajouter des compléments à vos questions, toujours au 0901 70 20 20.
Tout est dit, c'est l'heure de partir pour les jardinières.
Les jardinières. Sarah et Stéphanie.
Jean-Claude de Courandelin se demande comment protéger son potager, étant donné qu'il contient encore des plantations, Philippe Détra.
Bonjour, alors ça dépend de quelle plantation il s'agit.
C'était malheureusement pas précisé.
Ça résonne pas mal dans mon casque, je suis désolé. Donc, en principe, si c'est des légumes qui doivent être rentrés, il doit les rentrer avant les gros gels. Et puis, si ce sont des fleurs, bien parfois ce sont des fleurs annuelles. Donc, les fleurs annuelles, elles vont de toute façon périr avec les gels. En principe, il n'y a pas franchement besoin de faire des grosses protections de jardin potager. Éventuellement des branches de sapin qu'on appelle de la dard et qui permettent de protéger un petit peu les plantes, mais des rayons du soleil. En fait, moi je me coucherai pas là-dessous pour passer l'hiver. C'est juste pour protéger les plantes d'un réchauffement trop rapide si elles gèlent.
D'accord. Et en fait, donc c'est, même s'il y a encore des plantations, c'est pas perdu, parce que c'est vrai qu'on s'imagine tout le temps avec le froid. Si on a encore des choses vivantes, entre guillemets, bien sûr, dans son jardin, c'est mort, mais on peut vraiment faire quelque chose.
Ça dépend tout de ce que ce monsieur a encore dans son jardin.
J'imagine que c'est plutôt des légumes, hein, parce qu'il parle de potager.
Alors, il y a des légumes qui résistent relativement bien au froid. Hein. Après, ça dépend aussi de l'endroit où il habite, ce monsieur.
J'ai Courandelin.
Courandelin, c'est donc pour un petit Neuchâtelois.
Alors,
Jura.
C'est à côté de Delémont, Courandelin.
Ah, okay.
Ouais, donc c'est à la même hauteur que Delémont, donc dans les 450 mètres.
À mon avis, il n'y a pas de grande disposition à prendre.
Eh bien, Carole du Locle se demande si le paillage doit forcément être frais avec de la paille ou est-ce qu'il existe des alternatives?
Ok, alors je l'attendais cette question parce que en fait, ce monsieur qui est à Courandelin pourrait très bien imaginer de pailler les quelques légumes ou plantes qui lui restent et qui pourraient éventuellement être susceptibles de geler. Donc le paillage il est utilisé aussi. On parle de mulch ou de mulching en anglais. Je parle pas du tout l'anglais, je suis désolé. Mais c'est le paillage peut être fait avec plein d'autres matériaux. Ça peut être du compost, ça peut être des feuilles. Lorsque je bossais au jardin botanique, on utilisait les feuilles mortes de l'automne pour les rassembler au pied des plantes. Le but étant de protéger la base de la plante contre les gros froids.
Est-ce qu'on
peut utiliser d'autres matériaux. Pardon.
Et quel genre de matériaux, du coup?
Comme les feuilles, le compost, la paille. Il existe aussi dans le commerce des matériaux. Mais à mon avis, il y a tellement de matières naturelles, organiques, qui vont en même temps nourrir le sol, qu'il vaudrait mieux utiliser des matériaux organiques.
Est-ce qu'on peut le faire sur tout type de terrain ou si c'est en pente ou dans certaines terres, on ne peut pas utiliser cette pratique du paillage?
Non, à mon avis, on peut utiliser ça sur n'importe quel sol. Maintenant, s'il y a trop de pente, on va peut-être utiliser des branches de sapin là aussi pour empêcher des feuilles de s'envoler. On pourrait aussi, je le fais pour mes figuiers par exemple, moi je les bute avec avec la terre qui est autour, c'est-à-dire je fais une espèce de taupinière, de grosse taupinière à la base de la plante, ce qui va permettre à la plante d'être protégée des gros froids hivernaux.
Ah donc de la comme une taupinière, donc avec de la terre, vraiment comme vous...
Avec
vous
la terre,
ouais. Ok.
Ouais. Ça peut être du compost.
C'est la saison pour planter les arbres à racines nues, Philippe Détrat. Et à ce sujet, Claudia nous demande quels sont les bons gestes à adopter cet hiver pour que le cerisier qu'elle a planté ces derniers jours résiste au froid.
Alors, à mon sens, il n'y a pas grand-chose à faire si cette plante, ce cerisier, est déjà planté.
Oui, donc, alors le cerisier est déjà planté.
Ouais. Ouais, ok. Donc, gros trou, compost au fond, mettre de la terre fine, voilà. Et puis, surtout bien arroser afin de... afin que la terre colle bien aux racines. Donc, en principe, il n'y a plus rien à faire durant l'hiver.
Et puis, justement, ben voilà, si on a des arbres tels des cerisiers, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour le même style d'arbres, justement, qui viennent d'être plantés? Est-ce qu'il y a des petits trucs, justement, pour les protéger de l'hiver? C'est vrai qu'on est vraiment en plein dans le sujet.
Non, si le choix des plantes est judicieux par rapport à l'altitude où on habite, et que la plantation est bien faite, il faut évidemment encore penser à un tuteurage pour éviter que la plante se couche s'il y a des gros vents. Mais c'est tout, il n'y a rien d'autre à faire. Si le choix de la plante est judicieux, comme je viens de le dire, par rapport à l'altitude et si la personne a été bien conseillée.
Merci Philippe Détrat pour tous vos renseignements. Et vous aussi, vous pouvez avoir des réponses à toutes vos questions. Il vous suffit de nous appeler au 0901 70 20 20 pour 36 centimes à la minute. Ou vous pouvez aussi nous envoyer un SMS au 939 en tapant d'abord le mot jardin, puis un espace avant votre question. Et vous pouvez aussi utiliser le formulaire internet qui se trouve sur nos sites sous l'onglet émission questions aux jardinières.
7h 8h, les jardinières.
Les jardinières sont en compagnie de Philippe Détrat, horticulteur à Neuchâtel, pour répondre à toutes vos questions. Des questions que vous pouvez nous poser par téléphone au 0901 70 20 20 pour 36 centimes la minute, ou par écrit, par SMS. Vous pouvez nous envoyer un message avec en début de message le mot « jardin », puis un espace, et vous envoyez le tout au 939, ou bien par formulaire internet sous l'onglet « émission », vous trouvez « questions aux jardinières ». Vous le remplissez avec plein de détails et on essayera de répondre au mieux à votre problème de jardinage.
Eh bien oui, on sait qu'il fait encore un petit peu nuit, un petit peu froid, mais c'est pas grave, on est là pour répondre à vos questions. Comme Jacques qui a posé la question suivante. Il aimerait planter des fleurs qui donnent des couleurs dans son jardin, également en hiver. Alors, est-ce que c'est possible, Philippe ?
Oui, mais où habite Jacques ?
Eh bien, c'est une excellente question parce que Jacques n'a pas précisé son lieu d'habitation. Donc, peut-être donner un exemple pour la plaine et peut-être un exemple pour la montagne.
Ouais, tout à fait. Donc, pour la plaine, il peut penser à planter des pensées. Évidemment, c'est une plante bisannuelle ou vivace pour les petites pensées qui sont en fleurs actuellement. Et ensuite, ça dépend évidemment du recouvrement d'une éventuelle neige ou pas. Voilà, donc c'est vraiment ce qui va être ce qui va garantir le plus de fleurs dans son jardin. Maintenant, il ne faut pas qu'il imagine avoir des plantes comme des marguerites ou des choses comme ça qui dépassent trop parce que qui sont trop hautes parce qu'elles vont être couchées avec la neige et autres. Pour l'altitude, à part la neige. Je suis désolé, mais en principe, il y a pas beaucoup de plantes qui fleurissent en hiver. On a les roses de Noël qui sont des hélébores. On a des bergénias qui fleurissent parfois déjà en décembre, janvier, février avec des fleurs roses. Mais pour l'altitude, ça risque bien d'être tout recouvert de neige. J'espère pour le ski en tout cas.
Peut-être que si on les met en pot, ces fleurs, est-ce qu'il y a des fleurs qui peuvent résister justement à la neige et à des températures extrêmement froides et qui sont quand même colorées ? Ça existe ?
Pour un bord de fenêtre, peut-être. Maintenant, mettre des pots sur un jardin, c'est un peu bof, quoi. C'est pas terrible. Et il faut pas oublier une chose aussi, c'est qu'une plante en pot, lorsqu'elle est posée dehors et non enterrée, le froid attaque vraiment de tous les côtés le pot. Donc la plante sera beaucoup plus sujette à geler, à mourir, que si elle est plantée en pleine terre.
Ah ouais, donc c'est vrai que là, finalement, pour résumer, en montagne, eh bien,
comme les marmottes.
Voilà, exactement. Il faut hiberner vraiment le jardin, se met en mode dodo pour tout l'hiver, et puis en pleine, eh bien, il y a quand même quelques petites solutions. Voilà. Nous avons reçu également une question de Yves de Courfèvre qui a une plante carnivore dionée, aussi appelée attrape-mouche, dans un pot en extérieur. Alors, il demande, est-ce qu'il doit la rentrer pour l'hiver ou est-ce qu'il faut qu'il la nourrisse d'insectes pendant l'hiver ?
Alors, qu'il habite en plaine ou en montagne, de toute façon, c'est pas une plante qui résiste au gel chez nous, vu que c'est une plante tropicale. Et en appartement, elle va avoir d'autres petits soucis parce qu'avec les chauffages qui sèchent énormément l'air ambiant, eh bien cette plante tropicale va pas apprécier du tout. Donc il faudrait la brumiser régulièrement avec avec de l'eau qui est non calcaire. Et ouais, les plantes insectivores en appartement, c'est pas top.
Ah ouais, ça a l'air extrêmement compliqué de s'en occuper, en tout cas brumiser et puis garder vraiment la bonne température.
C'est clair qu'il faut toujours garder à l'esprit le lieu d'origine de la plante. Une plante tropicale en appartement chaud, d'accord, ça c'est bien, mais sec, c'est pas terrible.
Oui, donc c'est vrai que toujours faire extrêmement attention avec ce genre de plantes. Mais c'est vrai qu'en plus, on ne sait pas trop où on peut se les procurer. C'est assez spécial quand même.
Alors, je crois que dans les jardineries, on en trouve assez régulièrement, mais les grandes jardineries, et pas vraiment en automne. Donc, c'est peut-être une plante qui résiste déjà depuis le printemps chez ce monsieur. Faut brumiser, donc amener de l'humidité, de la chaleur, et il n'y a rien d'autre à faire.
Sarah, nous avons quelqu'un en ligne pour une question pour Philippe Détrin.
C'est José de Yverdon qui a composé le 0901 70 20 20. Et Philippe, il a une question pour vous à propos de son cerisier. Bonjour José.
Oui, je suis
bonjour.
Là.
Bonjour.
Bonjour.
Je vous écoute.
Ma question, c'est que j'ai un cerisier que j'ai planté, je crois, en 2002, 2003. Et puis, la deuxième année, troisième année, il a donné quelque chose, mais depuis là... ils donnent deux ou trois cerises, mais ils sont presque tous malades et puis sont mangeables, quoi.
Ok, la maladie que vous avez décelée, c'est des petites taches brunes sur les feuilles.
Oui, il y en a des taches sur les feuilles et puis les cerises sont tous pleines de boutons, tout coupées, ils sont pas bonnes, quoi.
Ok. Bon, alors. La maladie visible sur les feuilles, c'est très probablement, mais je veux pas un certifier absolument parce que il faudrait voir les feuilles pour ça. C'est probablement la maladie criblée qui est assez connue sur les cerisiers. On peut pas faire grand chose parce que sur les cerisiers, un jardinier privé n'a pas vraiment le droit de faire des traitements, sauf après la récolte des cerises. Donc maladie criblée, puis ensuite vous regardez dans des guides de traitement ce que vous pouvez faire. Maintenant, pour la récolte médiocre, il faut savoir que il faudrait s'assurer qu'il y ait des cerisiers dans votre région aussi, pas trop loin, parce que la fécondation devrait être croisée entre deux plantes, et ça, les abeilles le font très bien, mais si votre cerisier est tout seul, il n'y aura pas la possibilité d'avoir cette fécondation croisée. C'est peut-être la raison.
Excusez-moi, parce qu'elle donne beaucoup de fleurs. Et puis après, tout d'un coup, je sais pas si c'est le gel, parce qu'elle est printanière. Et puis tout d'un coup, les fleurs tombent et puis il n'y a pas de cerise qui reste.
Voilà, donc évidemment, ça peut être un coup du gel, hein, ça c'est clair. Cette année, principalement peut-être, comme on a eu pas mal de pertes sur des fruitiers, d'autres fruitiers, comme les abricotiers en Valais. Et comme je viens de le dire, il faudrait s'assurer qu'il y a un autre cerisier pas très loin pour assurer la fécondation des fleurs. Sinon, elles sont là pour rien.
Ah, d'accord.
Merci José d'avoir appelé en tout cas.
Merci beaucoup. Bonne
belle journée à vous. Eh bien, les jardinières vont revenir d'ici quelques petites notes de musique et puis on va faire aussi un point sur la météo et sur la route. À tout de suite.
7h, 8h. Les jardinières.
On en rentre dans la deuxième partie de l'émission. Nous sommes toujours évidemment en compagnie de Philippe Détras, horticulteur à Neuchâtel. Il répond à toutes vos questions de jardinage en ce samedi 18 novembre.
Appelez-nous au 0901 70 20 20 pour discuter directement avec Philippe Détras de vos soucis de jardinage. Nous sommes là pour vous aider jusqu'à 8h. Également par SMS au 939 en n'oubliant pas de mettre le mot jardin en début de message et en laissant un espace avant votre question. Il existe aussi le formulaire internet sous l'onglet émission questions aux jardinières. Dans tous les cas, n'hésitez pas à bien développer votre question pour que votre réponse soit tout aussi détaillée.
Le SMS, c'est le moyen qu'a utilisé Christiane de Delémont. Elle a une question qui concerne les artichauts. Donc elle a dans son jardin un grand plant d'artichauts. Est-ce que cette plante peut rester dehors et comment la protéger, Philippe?
Alors si donc vous me rappelez d'où habite cette dame?
À Delémont.
À Delémont. Donc Delémont, c'est un poil plus froid que Neuchâtel.
Un petit poil plus froid.
Voilà, parce que vous n'avez pas de lac. Voilà.
Ouais, attention, on ne va pas fragiliser.
Non, non. Cette plante est une plante bisannuelle. Donc en principe, elle a un cycle annuel sur 2 ans civils. Elle fleurit la deuxième année. Et à Delémont, à mon avis, il n'y a aucun risque. Il n'y a vraiment pas grand risque qu'elle gèle. C'est une plante relativement solide. C'est de la famille des marguerites, d'ailleurs. Mm-hmm. Et puis, moi, je ferai rien. Je ferai rien, disons, voilà. Si on a des grosses chutes de neige, ben, il va un petit peu plier sous cette neige. Ce qu'on ne sait pas, c'est si elle a déjà fleuri.
Ah non, alors c'est pas précisé, effectivement.
Voilà, donc si elle n'a pas encore fleuri, ben elle fleurira probablement l'année prochaine. J'ai eu des artichauts qui duraient 7-8 ans à Neuchâtel. Donc parfois, en fonction du climat ou de l'endroit où c'est mis, ça peut durer plusieurs années.
Ah mais 7-8 ans quand même pour un artichaut.
Ouais, et puis ça prend de la place, hein, c'est un bon mètre de diamètre.
Ça pousse à quelle période?
Au printemps. Ça pousse au printemps, ça pousse déjà une partie de l'été, ensuite ça se met au repos en hiver, comme n'importe quelle plante bisannuelle, et ensuite ça repousse au printemps pour fleurir.
Il y a Patrick Demoutier qui aimerait faire un purin de plantes avec des feuilles d'ortie, et il se demande comment il doit s'y prendre, Philippe.
Alors, moi j'en fais régulièrement du purin d'ortie, on peut aussi l'appeler tisane, pas pour consommer, mais voilà, tisane, et lorsque ce n'est pas macéré trop longtemps, et puis ça change de nom lorsque c'est macéré très longtemps et que ça sent vraiment le purin, voilà. Donc, très simple, si je me souviens bien, il faut 1 kg de feuilles fraîches au printemps. Maintenant, elles sont pas très utilisables, ces feuilles, au printemps, lorsqu'elles poussent. 1 kg de feuilles fraîches pour 10 litres d'eau de pluie, si possible de l'eau de pluie, parce que dans l'eau du réseau, on peut avoir du chlore qui peut annuler les effets de ce purin. Mettre ça dans un bidon, un tout petit peu éloigné des fenêtres, parce que ça va pas être très sympa pour les fenêtres.
Effectivement.
Pour respirer. Et puis ensuite, brasser tous les jours, à l'abri de la pluie évidemment, donc ça doit être sous un abri. Brasser tous les jours, et lorsqu'il y aura plus de petites bulles qui se dégagent du liquide, eh bien on peut filtrer ça. Pour l'utiliser comme... alors on n'a pas le droit de dire que c'est un engrais, on va dire que c'est un stimulant, on n'a pas le droit de dire que c'est un insecticide, donc c'est un répulsif. Voilà.
C'est la question que j'allais vous poser, justement. Quelles utilisations vous-même vous faites avec le purin d'ortie?
Alors, c'est un breuvage, c'est un liquide qui est très riche en nutriments. Et puis, il a un effet répulsif contre les pucerons. Voilà, donc on peut l'utiliser, mais donc les pucerons vont se barrer tellement ça sent mauvais.
Est-ce qu'il existe d'autres plantes avec lesquelles on peut faire un purin efficace?
Ah ouais, une quantité. Si j'ose faire de la publicité pour un bouquin qui est vieux, hein, qui est super connu par tous les gens qui travaillent dans le bio, c'est Purin d'ortie et compagnie. Ils en sont à leur, xème version. Et toujours ça s'améliore. Donc il y a une grosse quantité de plantes que l'on peut utiliser. On peut utiliser du sureau, on peut utiliser de l'absinthe, on peut utiliser même les tomates. Moi, après mes ventes de tomates, lorsqu'il me reste des jeunes plantes, je les passe en purin. Et je donne ce liquide en consommation aux tomates.
Et c'est quelque chose qui est à la portée de tout le monde de faire du purin comme ça, d'ortie, tomate. Ou c'est quand même, il faut quand même avoir certaines connaissances de jardinage comme vous, Philippe Détrin.
Non, c'est extrêmement simple. Extrêmement simple. Il faut peut-être pas mettre ça sous les fenêtres des voisins parce que après on a des problèmes avec les voisins.
Petit problème, oui.
Non, c'est monstre simple et ça sent un petit peu, mais pas très longtemps.
Et nous avons reçu une question de Justin de Neuchâtel, Sarah.
À quelle fréquence doit-on arroser l'échéveria en pot dans un appartement ?
Alors, l'échéveria est une plante grasse qui pourrait... Alors, en appartement, ça peut aller, ouais, effectivement. Je vais avoir une réponse un petit peu bateau, parce qu'on peut me poser la même question pour des plantes vertes ou pour n'importe quelle autre plante. Moi, je vous dirais utiliser la technique du doigt. Vous plantez le doigt dans la terre. Si c'est sec.
Comme quand on est à l'école.
si c'est sec, vous donnez un petit peu d'eau et si c'est mouillé, vous attendez que ça devienne sec. C'est valable absolument pour tout, même pour les plantes qui auront des plus grands besoins. C'est valable, c'est tout le temps valable. Voilà.
Donc, bien sûr, juste planter deux doigts et puis voir si s'il y a besoin d'arrosage. Ouais. C'est tout simple,
ouais.
Finalement.
Ouais. Un ou deux doigts.
On a une question de Chantal de Fontenay qui se demande si dormir avec une plante dans sa chambre, est-ce que c'est dangereux ou c'est une idée reçue, un cliché, mais pas forcément dangereux au final ?
Non, c'est pas si dangereux que ça. Une plante, elle fait comme nous, elle respire. Donc, elle va absorber de l'oxygène, elle va dégager du CO2. On en dégage aussi du CO2. Donc, c'est pas très grave. Tant que ça reste raisonnable au niveau plantes, au niveau quantité de plantes. Moi, je pense que ça serait peut-être pas très bon d'aller dormir dans une serre. Voilà. Parce qu'il n'y aurait pas assez de... Peut-être que l'oxygène serait plus consommé par les plantes que pour nous. Mais non, il n'y a pas d'inquiétude à avoir avec une ou deux plantes.
Et au contraire, est-ce qu'il y a certaines plantes qui seraient bénéfiques pour le sommeil ?
Alors là, il y a une certaine plante psychotrope qui fait dormir, je crois.
Mais ça fait dormir, non. Ça.
Alors, dans la même famille, vous avez le houblon. Le houblon qui est une même plante c'est une plante qui est de la famille du cannabis et qui a des effets qui peuvent aider à dormir. Mais là, il faudrait demander plutôt à un herboriste.
Et c'est tout à fait légal ?
Le houblon, ouais.
D'accord.
Tout à fait.
Et vu qu'on est dans les plantes d'appartement et les pièces, est-ce que il y a des plantes qui, par exemple, si on les met dans la salle de bain, supporteraient mal l'humidité ?
Je dirais que c'est presque plutôt le contraire. Bon, toutes les plantes grasses, comme l'échéveria que vous venez de citer tout à l'heure, ou les aloés qu'on a en appartement, ou les cactacées, toutes celles-ci demandent un milieu plutôt sec. Voilà. Pour toutes les autres, toutes les plantes tropicales, que ce soit n'importe quelle plante verte, la salle de bain sera la pièce idéale, pour autant qu'il y ait de la lumière, évidemment. Donc, humidité, chaleur et lumière, ça fera très bon ménage.
Merci Philippe Détrin. Vous avez encore des minutes devant vous pour bénéficier du savoir de Philippe Détrin. Vous pouvez pour cela nous appeler au 0901 70 20 20 pour 36 centimes la minute ou nous envoyer un SMS au 939 en tapant d'abord le mot jardin puis un espace avant votre question. Et vous avez aussi le formulaire internet qui est à votre disposition sur nos sites.
7h, 8h. Les jardinières.
Nathalie a profité de la pause musicale pour nous appeler au 0901 70 20 20. Elle a une question de jardinage pour vous, Philippe. Elle nous vient de Saint-Ursanne. Bonjour Nathalie.
Bonjour.
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 Bonjour. Alors, j'ai un buis qui a eu l'araignée rouge. Et puis, il n'a plus de feuilles. Je l'ai taillé. Et puis, voilà, quoi. Je voudrais savoir s'il va refaire des feuilles, ce pauvre.
Vous êtes sûr que c'était l'araignée rouge ?
Il avait toute étoile d'araignée.
Ok.
Il avait les feuilles jaunes. Maintenant, il a plus de feuilles. Elles sont toutes tombées. Et puis, le bout des branches était sèche.
Ouais. Alors, moi, je pencherais plutôt pour la pyrale, qui est une chenille qui fait d'énormes dégâts sur à peu près tous les.
Ah buis. Oui, d'accord. Alors, je l'ai traité avec un produit. Assez naturel, et ça sentait le savon noir, j'imagine que c'était à base de savon noir.
Ouais, mais c'est... la pyrale voilà, est vraiment après, féroce.
oui, justement, il a commencé gentiment, puis après je l'avais taillé comme d'habitude, puis là vraiment il était jaune de partout, avec toutes des petites toiles. Alors, j'ai cru que c'était une araignée. Et puis voilà, après je l'ai taillé les endroits où c'était sec, là, dernièrement. Mais je voulais savoir s'il avait... Parce qu'on dirait qu'il a des petites feuilles qui reviennent, mais je ne sais pas s'il va pouvoir s'en sortir.
Alors, la plante va sûrement avoir un sursaut d'énergie pour refaire des nouvelles pousses, mais ces nouvelles pousses ont de très fortes chances d'être réattaquées par cette pyrale. Donc, moi, je ne vais pas être pessimiste, mais feriez mieux
il
de planter...
Il est fichu, quoi.
Il faudrait planter autre chose.
Alors, à ce moment-là, il faut vraiment que je l'enlève, mais je ne peux pas remettre la même chose à la même place, parce qu'il y aura les bêtes de nouveau, il y aura les insectes.
Exactement, donc elles attendent peut-être qu'une chose, c'est que vous remettiez la même chose.
Parce que j'en ai un petit, justement, ailleurs, et je me disais, est-ce que je pourrais en replanter un à sa place? Mais alors, à ce moment-là, ils vont de nouveau rattaquer.
Et probablement, très probablement.
Oh là là. Alors, en fait, le terrain est infesté et on ne peut rien faire.
Alors, infesté, je ne veux pas le jurer, mais il y a des fortes probabilités, effectivement. Si la plante a déjà été attaquée, donc il y a probablement des œufs qui restent, et ces œufs vont éclore au printemps pour attaquer la jeune plante.
Ah, donc ils seront toujours latents, là, à attendre qu'il y ait quelque chose pour dévorer.
Oh, toujours, c'est un grand mot, mais c'est presque sûr.
Ah, d'accord. Bon, alors, cet endroit-là n'aura plus rien, quoi.
Ou, non, mais mettez autre chose, parce que cette pyrale-là, elle s'est spécialisée sur le buis, donc vous pouvez prendre...
Ah, d'accord, elle ne va pas sur d'autres sortes d'arbustes.
Ça, je ne veux pas le certifier, parce que je ne suis pas pépiniériste, mais il y a sûrement d'autres espèces que vous pouvez mettre à la place.
Merci. Bon, ben voilà, quoi.
Peut-être c'est merci bien, ouais, Nathalie, et bonne chance avec votre pyrale.
Merci beaucoup. Au revoir, bon week-end.
Belle journée, bon week-end, Nathalie.
Au revoir.
Et nous avons une question, outils de jardinage, Philippe Détra. C'est Isabelle de la Brévine qui justement se demande quelles précautions il faut prendre pour son tuyau d'arrosage et puis tout ce qui est outils de jardin pendant l'hiver.
Alors les outils de jardinage devraient être nettoyés avant l'hiver et ensuite éventuellement huilés. Je sais que mon grand-papa faisait ça, moi je le fais pas, peut-être un petit peu par flemme ou manque de temps, j'en sais rien. Voilà, je sais plus quels produits ils utilisaient. Maintenant pour tout ce qui peut contenir de l'eau et qui risque d'être exposé au gel, eh bien il faut évidemment les purger. Donc les tuyaux doivent être vidés. Ils peuvent rester dehors, mais vidés. En principe, il vaudrait mieux les rentrer. Pas oublier d'ouvrir les robinets, de couper l'eau dans le jardin, de façon à ce que les tuyaux ne gèlent pas. Et voilà. Donc s'ils gèlent, les tuyaux vont péter, puis ensuite, ils tiendront plus l'eau au printemps. Quoi.
Ah ouais, donc c'est toutes des petites précautions très importantes à prendre justement en cette période.
Il y a Enzo de la Neuville qui nous a écrit pour nous demander quelle quantité de cendre faut-il répandre sur sa pelouse pour qu'elle soit protégée du gel sans que cela devienne nocif.
Alors je doute fort que les cendres protègent du gel. Je me suis un petit peu documenté et on parle de 2 à 3 poignées par mètre carré. Ou de quelques kilos par 1000 mètres carrés. Maintenant, les cendres devraient évidemment provenir de bois propre et non de bois qui a eu de la peinture ou de choses comme ça. Il ne faut pas oublier non plus que tout ce qui vient de la nature n'est pas forcément bon pour la nature. Et ça dépend énormément de la nature du sol. Donc les cendres ont du bon. Il y a de la potasse, il y a du calcium. C'est intéressant. Mais... voilà, si le sol est déjà suffisamment calcaire, ça va pas forcément être très bon. Donc, il faudrait s'intéresser à la nature du sol. S'il est relativement acide, ces cendres vont faire du bien. Maintenant, je peux pas le dire depuis derrière mon micro.
Et quel autre matériau on pourrait utiliser du coup et répandre sur sa pelouse pour la protéger du gel ?
Il y a aucun besoin de protéger une pelouse du gel, à mon avis. Je crois pas.
Et nous avons justement peut-être une question un peu générale qui concerne la période. Qu'est-ce que vous conseillez maintenant en termes peut-être de taille des arbres, en termes d'entretien du jardin pour ces premières gelées, Philippe Détra ?
Alors, tous les arbres qui ont eu éventuellement des petites maladies, comme la maladie criblée sur le cerisier de José, ces feuilles-là devraient être ramassées et détruites. Ensuite, on peut tailler les arbres et arbustes fruitiers, par exemple. Mm-hmm. La taille du cerisier se fait plutôt en automne pour éviter une maladie qui s'appelle la moniliose. Or, la plupart du temps, les gens taillent les cerisiers durant l'hiver et au printemps, comme les autres fruitiers. On attend de toute manière que les feuilles soient tombées, comme pour assurer à la plante qu'elle soit bien au repos. Et on va les tailler durant l'hiver. Mais voilà, après la taille, il y a plusieurs jardiniers, il y a plusieurs façons de tailler, et il y a plusieurs méthodes.
Et sinon, c'est clair que le jardin est un petit peu au repos. Maintenant, il n'y a plus besoin vraiment de tondre le gazon. C'est terminé, ce genre de choses. C'est vraiment un peu l'hibernation.
Ouais. Et puis mettre des je reviens sur les cendres sur le gazon. Je ne crois pas qu'il y ait une grande utilité de le faire maintenant. Donc, il vaudrait mieux le faire au printemps. Parce que ces cendres, elles vont être de toute façon lessivées, probablement lessivées par les pluies.
Est-ce qu'il est encore temps peut-être de couvrir certaines plantes qui devraient, peut-être ça aurait déjà dû être fait? Ou des plantes, je pense peut-être à l'olivier ou à ce genre de plantes un peu méditerranéennes.
Bon, alors pour moi, tout ce qui est plantes méditerranéennes devrait être rentré en hiver. Alors on peut tenter le coup. Moi j'en ai un très gros que je peux plus rentrer, donc je le laisse dehors. Mais voilà, si on a de la neige, eh bien j'amène toute la neige en gros paquet à la base de la plante parce que c'est une excellente protection la neige. Donc les plantes, tout ce qui est méditerranéen, rentrer au frais et à la lumière.
Eh bien, merci Philippe Détra d'avoir été avec nous ce matin pour aider tous nos auditeurs avec leurs questions. Les jardinières, c'est fini pour aujourd'hui, mais bien sûr, on revient la semaine prochaine.
D'ici là, écrivez-nous vos questions par SMS au 939 en tapant le mot « jardin » et un espace au début de message et par formulaire internet sous l'onglet « questions aux jardinières » sur nos sites. Bon week-end et à la semaine prochaine.
Bon week-end à tous.
7h, 8h, Les jardinières.